Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Être chrétien, c'est penser, agir et aimer comme le Christ et le laisser transformer notre vie. À l'audience générale, ce mercredi, le pape François a poursuivi sa catéchèse sur la foi, compte rendu dès le début de ce magazine. Les communautés nouvelles qui recrutent dans les rangs des catholiques peuvent être le révélateur de besoins rencontrés par les populations locales et permettre d'améliorer l'approche pastorale de l'Église catholique. Un congrès se tient ces jours-ci à Rome pour décrypter ce phénomène. La lutte en faveur de l'abolition de la peine de mort a enregistré un revers important en 2012 avec la reprise des exécutions en Inde, au Japon, au Pakistan et en Gambie après des moratoires. Amnesty International tire la sonnette d'alarme. Vous entendrez également Robert Badinter dans cette émission. Audience générale, ce mercredi, le pape a lancé un appel en faveur des sinistrés du puissant tremblement de terre qui a frappé mardi le sud de l'Iran. Des milliers de fidèles étaient rassemblés sur la place Saint-Pierre. Il y a eu des morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts. Le Saint-Père prie pour les victimes et exprime sa proximité aux populations frappées par cette calamité. Il invite tous les fidèles à prier pour tous ses frères et sœurs d'Iran. Avant l'audience, le pape argentin avait effectué un long tour en jeep découverte sur une place Saint-Pierre-Comble. Parmi les fidèles, un groupe de prêtres français de Bordeaux, emmenés par leur archevêque, le cardinal Jean-Pierre Ricard. Notre foi, a dit le Saint-Père, est fondée sur la mort et la résurrection du Christ. Notre espérance se base sur Dieu qui ne déçoit pas. Elle est forte, sûre et solide. Avec cette simplicité qui parle au cœur des personnes, le nouveau pontife a souligné que pour être de vrais chrétiens, il ne suffisait pas de suivre les préceptes. Il faut penser, agir et aimer comme le Christ, permettre au Christ de transformer nos vies et de nous libérer des ténèbres du mal et du péché. Le pape François a encouragé les catholiques à être les signes visibles de l'espérance chrétienne dans un monde qui semble souvent incapable de lever son regard vers Dieu. Nous devons avoir le courage de la foi et ne pas nous laisser conduire par la mentalité qui prétend que Dieu ne sert à rien, qu'il n'est pas important pour nous. Dieu est notre force et notre espérance. Et pour la première fois, le pape François s'est exprimé non seulement en italien, mais aussi en espagnol.
San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires. Eso es muy importante.
Et le compte @pontifex a publié un nouveau tweet du Saint-Père. Si nous nous comportons en enfants de Dieu, nous sentant aimés par lui, notre vie sera nouvelle, pleine de sérénité et de joie. Le pape François est tellement populaire et connu que le nombre de ses followers sur Twitter ne cesse d'augmenter, surtout en espagnol. Aux États-Unis, le nouveau pontife recueille déjà 84% d'opinions favorables parmi les catholiques. Selon NBC News, 20 millions de catholiques américains qui s'étaient éloignés de l'Église reconnaissent que depuis l'élection du pape François, ils sont tentés de revenir au bercail. Dans le monde entier, ses moindres gestes et paroles sont scrutés, relayés et analysés. Dimanche soir, le pape François célébrera la messe en la basilique Saint-Paul hors les murs à partir de 17h30. Au lieu de pèlerinage, situé à l'extérieur des remparts de Rome, Saint-Paul est l'une des quatre basiliques majeures de Rome avec Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Pierre. Détruite par un incendie en 1823, elle a été entièrement reconstruite. Rome accueille jusqu'à jeudi un congrès international sur les évangéliques, pentecôtistes et charismatiques sous les auspices de l'épiscopat allemand. Les nouveaux mouvements religieux constituent en effet un défi pour l'Église catholique. Depuis une trentaine d'années, des centaines de nouveaux groupes religieux sans lien avec l'Église catholique sont apparus en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie pour la plupart. Certains sont ouverts au dialogue, d'autres ont tendance à s'isoler. Certains recrutent discrètement et respectent les options différentes, d'autres font une propagande tapageuse. Si ces communautés tournent de nombreux fidèles de l'Église catholique ou convertissent de nombreuses personnes, elles ne doivent pas uniquement être perçues dans une perspective de concurrence effrénée sur le libre marché du spirituel. Parmi les participants au congrès de Rome, Théodore Hampf est professeur de sciences politiques et sociales à l'Université de Fribourg et à l'Université américaine de Beyrouth. Il décrypte pour nous ce phénomène.
Il n'y a pas une disposition psychologique particulière de nouveaux mouvements comparés aux églises établies. Deuxièmement, ce n'est pas vrai que ce sont les plus pauvres des pauvres. pauvres, ce sont en général des couches montantes, très motivées, mais pas les plus pauvres des pauvres. Troisièmement, il n'y a pas une éthique calviniste qui glorifie l'éthos du travail, mais très souvent une motivation d'échapper à une certaine situation de misère. Par exemple, en Costa Rica, le résultat le plus important était que les femmes sont surreprésentées, des femmes qui font carrière, des femmes qui élèvent elles-mêmes leurs enfants, qui rejettent le machisme et qui se retrouvent en communauté, dans un nouveau groupement religieux. En Afrique du Sud, il y avait une autre surprise. Très souvent, on entend des opinions que les charismatiques, les évangéliques sont très autoritaires. Et en effet, il y a quelques sondages qui ont montré qu'il y a une certaine tendance à l'autoritarisme, par exemple en Afrique orientale. En Afrique du Sud, pas du tout. Ce sont des gens très bien dans leur peau, très actifs et très démocratiques. Les Philippines, c'est le troisième cas que j'ai pu suivre. Là, les charismatiques se sont installés à l'intérieur de l'Église catholique.
Mais ces mouvements sont en pleine explosion. C'est une vraie concurrence. C'est un vrai défi pour l'Église catholique ?
Tout à fait. C'est-à-dire, ce qu'on a depuis quelques décades, c'est une nouvelle vague de missions, plus importante que celle du 19e siècle, qui était celle des Églises établies. Si on parle d'individus appelés, convertis, ou si on parle de communautés fondées, c'est plus important ce qu'il y a eu. Et ce sont les charismatiques, les évangéliques, qui sont dans la plus grande expansion. En Amérique latine, en Afrique, même en Asie.
Mais pourquoi cette explosion ? Parce qu'il s'adresse mieux aux populations ? Parce que l'Église représente un peu l'ordre établi et les mouvements charismatiques ou les mouvements évangéliques, un peu de nouveauté ?
C'est très difficile à dire. D'après les cas qu'on a étudiés, il y a surtout un esprit de petite communauté, d'engagement, de prise de responsabilité. La plupart des églises établies en Afrique, en Amérique latine, ils vivent des sous de l'Europe. La plupart de ces nouveaux mouvements, après une période de 2, 3, 4 ans, s'autofinancent. Ils ramassent de l'argent, ils payent eux-mêmes, n'est-ce pas ? Ils ne se font pas payer. Ça montre un haut degré d'engagement.
Comment réagit l'Église face à ces mouvements, face à cette concurrence ?
Ça dépend tout à fait des régions. En Afrique du Sud, elle ne réagit pas du tout parce que ces mouvements, ils ne mordent pas sur leur clientèle, ils mordent sur la clientèle d'autres confessions. En Amérique latine, il y a un grand problème parce que beaucoup de ces mouvements sont développés dans des régions où il n'y a pratiquement pas de clergé, où l'institution ecclésiastique, catholique, est mal représentée. Mais partout, ils réagissent d'une façon quand même assez nerveuse. Ils n'arrivent pas à s'expliquer pourquoi ça se fait ainsi.
Est-ce que sur les 20 dernières années, les mouvements ont évolué, que ce soit dans leur doctrine ou dans leur rapport avec leurs fidèles ?
Tout à fait. Disons, la rapidité de ce développement, il est aussi différent d'après les cas. À l'origine, ce qui a dominé, c'est ce qu'on appelle la théologie de la prospérité. C'est un genre de calvinisme mis sur la tête. Le calvinisme enseigne que le succès dans la vie professionnelle peut être un signe qu'on soit élu, tout en ne sachant pas si on est vraiment élu. Certaines de ces nouvelles églises, au contraire, ont dit, bon, si vous vous activez, si vous donnez assez d'argent, si vous êtes assez pieux, vous allez devenir riche ici, sur cette terre, et donc pendant votre période de vie. Ça, c'est évidemment assez attrayant pour des sociétés en état de crise économique, etc. Bon, mais cette théologie de prospérité, pas mal de ces nouvelles églises les ont laissées. Il se rapproche plus d'un protestantisme classique, conventionnel, avec une formation aussi du clergé plus sérieuse qu'auparavant. Si ça va changer le caractère de ces églises à la longue, ça reste à voir.
Des propos recueillis par Olivier Tosseri. Un noir américain âgé de 50 ans a été exécuté par injection létale mardi soir au Texas pour un meurtre qu'il nie avoir commis il y a 23 ans. Rick Lewis aura passé 19 ans dans le couloir de la mort. « Je ne suis pas un meurtrier, laissez sortir la vérité pour que je ne sois pas mort en vain », a-t-il dit avant de mourir. Un couple de Français l'a accompagné jusqu'au bout. Daniel et René Sirven militent contre la peine de mort au sein de l'Association pour la justice du Languedoc-Roussillon. Ils échangeaient depuis 10 disant des courriers, des dessins, avec le condamné auquel ils avaient rendu visite à plusieurs reprises. Daniel Sirven a parlé de cette exécution comme d'un homicide légal. Il s'agit du deuxième homme exécuté au Texas en 2013, le sixième de l'année aux États-Unis. Malgré une tendance générale à l'abolition dans le monde, les exécutions capitales ont repris dans plusieurs pays en 2012 et ont enregistré une hausse alarmante en Irak. C'est ce qu'indique le rapport annuel sur la peine de mort d'Amnesty International, publié ce mercredi. L'Organisation de défense des droits de l'homme dénombre au moins 682 exécutions en 2012 dans 21 pays, soit deux fois plus que l'année précédente. Ces chiffres n'incluent toutefois pas les milliers d'exécutions qui auraient lieu en Chine et dont les statistiques sont secrètes. Après la Chine, l'Iran se classe au deuxième rang, suivi de l'Irak, Arabie Saoudite et États-Unis. À cause de la guerre civile, Amnesty ne dispose d'aucune statistique sur la Syrie. En Europe, le Bélarus reste le seul pays à appliquer la peine capitale. Écoutez Anne Denis, responsable de la commission abolition de la peine de mort chez Amnesty France.
Plus vous condamnez à mort, plus vous avez des condamnés à mort dans les quartiers condamnés à mort, et plus vous avez des chances qu'à un moment donné, on va en exécuter. Donc, on peut dire que la tendance mondiale est celle de l'abolition, avec malheureusement des retours en arrière. En Irak, c'est essentiellement pour des faits de terrorisme présumé. Le pays, quand même, dans la région qui aussi nous inquiète beaucoup, c'est l'Iran, parce que l'Iran a un taux d'exécution très élevé. C'est quand même le deuxième pays dans le monde après la Chine. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'on exécute, si vous voulez, pour des motifs qui ne sont pas les plus graves. Donc ça veut dire que ce sont des pays qui ne respectent absolument pas les valeurs des Nations Unies, puisque en Iran, on exécute souvent pour les infractions sur la législation pour les stupéfiants, et ce sont des tout petits trafiquants qui sont exécutés. On se sert aussi de cet argument pour se débarrasser d'opposants politiques ou de minorités religieuses ou de minorités ethniques. Donc ça, c'est vraiment un gros problème.
Des propos recueillis par Antonino Gallofaro. La publication de ce rapport est pour nous l'occasion de vous faire écouter un extrait d'une interview accordée aux émissions musicales de Radio Vatican par Robert Badinter. À l'occasion de la représentation à l'Opéra de Lyon, dans le cadre du festival Justice et Injustice, d'un opéra intitulé Claude, sur un livret justement de Robert Badinter, inspiré du Claude Gueux de Victor Hugo. Opéra qui sera diffusé sur Arte le 11 avril à 20h. C'est l'histoire d'un ouvrier qui se bat contre la misère, un révolté contre l'injustice sociale et pénitentiaire qui sera guillotiné. Homme d'État, avocat, philosophe et écrivain, Robert Badinter demeure, pour l'histoire, le garde des Sceaux qui a fait abolir la peine de mort en 1981 sous la présidence de François Mitterrand. Aujourd'hui, il continue à militer pour des conditions de détention et une justice digne de l'homme.
J'ai passé près de 60 ans de ma vie. J'ai donné à la lutte contre l'inhumanité carcérale, la violence carcérale, l'oppression carcérale, une énergie aussi considérable que celle, plus même, que celle que j'ai donnée à combattre la peine de mort en France et hors de France. Et je continue, je continuerai, mais je suis forcé de dire qu'il y a dans les sociétés occidentales une relation sombre et sinistre entre une nation et sa prison. Ça vaut notamment, pas particulièrement, notamment chez les Français. Les Français ont avec la prison, la société française a avec la prison une relation ambiguë, faite de cruauté, d'oubli. Quand j'étais garde des Sceaux, j'étais ministre, j'étais l'homme le plus impopulaire du gouvernement, de très loin, ce qui faisait un grand plaisir au président de la République. Comment, Robert, mais pourquoi les Français ne vous aiment pas? C'est curieux, vous devez mal vous y prendre. Oublions l'abolition, les Français étaient tout à fait contre l'abolition, de tiers à tiers. Mais tout ce que je faisais, tout ce que j'ai fait pour améliorer la vie carcérale, c'était toujours l'objet d'explosions de rage, de haine. Quand j'ai mis les télévisions, une télévision dans les cellules, on ne peut pas savoir ce que ça a été. Comment, plus que le cigare, le champagne le soir, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une vieille compagne, ma prison. Mais je n'arrête pas de m'interroger. Pourquoi cette cruauté? Et finalement, je suis arrivé à dégager une évidence pour moi. J'ai compris qu'il existe sur les prisons une loi d'airain. Vous ne pouvez pas, dans une démocratie, vous ne pouvez pas faire passer le niveau de vie des détenus à un niveau supérieur à celui du travailleur libre le moins payé, parce que on ne le supporte pas. Si vous avez un état d'injustice sociale dans lequel les pauvres sont maltraités, vous pouvez être sûr que vous aurez des prisons qui seront incroyablement médiocres ou mauvaises. Donc, les sociétés à prison humaine, ce sont les sociétés, oui, social-démocrates, à garantie sociale, où même le travailleur en chômage ou le plus défavorisé vit convenablement. Là, vous pouvez agir. Chez nous, et en période de chômage, c'est très difficile. Comment faire pour que la peine, qui est toujours souffrance, d'ailleurs, le mot même, pena, indique que c'est la souffrance. Au code pénal, je dis toujours en riant à mes étudiants, c'est le code des souffrances. La peine est souffrance, mais elle ne doit pas être perdue, c'est l'éternelle question. Et dans les prisons, trop souvent, c'est du temps mort. J'ai vu des détenus, des hommes qui avaient commis des crimes très graves, par la lecture, par l'accès à l'ordinateur, par un projet pédagogique, par la culture, changer et retrouver une place dans la société.
C'était l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter. Le pape François a adressé une lettre au président de la Cour suprême argentine qui lui avait adressé ses félicitations. Le Saint-Père souligne que pour administrer la justice, il faut faire preuve d'équité et d'impartialité et avoir de nobles idéaux. C'est une tâche éminente et difficile, exposée à des risques et des tentations. Pour le pape, ceux qui sont appelés à faire respecter l'ordre, à écraser le mal et à sauvegarder la vérité doivent avoir des qualités humaines, prudence, sagesse, intégrité et force. Le pape François toujours souhaite visiter le centre à Stalli à Rome. Il l'a personnellement annoncé par téléphone au père Giovanni Lamanna, responsable de ce centre dirigé par des jésuites et qui vient en aide à des milliers de sans-papiers. Le pape, qui est lui-même jésuite, a appelé le père Lamanna sur son portable. Depuis 1980, le centre à Stalli offre aux réfugiés des soins de santé, une assistance psychologique et légale, des repas et des douches. La plupart des immigrés qui s'adressent au centre à Stalli sont des musulmans qui ont fui le Moyen-Orient ou l'Afrique, souvent parce que leur vie était en danger. Leur histoire est souvent tragique, souligne le père Lamanna. Il y a aussi des femmes qui ont fui une situation familiale dramatique. Avec l'aide de volontaires, le centre à Stalli les aide, conformément à l'Évangile, sans distinction de race, de langue ou de religion. Le centre de Rome accueille environ 400 personnes par jour. Dans son rapport 2013, présenté mardi, le centre d'accueil a indiqué que les demandes d'asile avaient baissé, mais que la distribution des repas restait la même. En plus bref, un deuil au sein du Sacré Collège. Le cardinal italien Lorenzo Antonetti est décédé ce mercredi à l'âge de 90 ans. Il avait été notamment nonce apostolique à Paris et à Kinshasa, président de l'administration du patrimoine du siège apostolique et délégué pontifical pour la basilique patriarcale Saint-François d'Assise. Le pape François a exprimé ses condoléances à l'évêque de Novare, son diocèse d'origine. Le Collège cardinalis compte désormais 205 membres, dont 113 électeurs. Le grand rabbin de France regrette profondément ses fautes, plagiat, fausse agrégation, mais il ne démissionnera pas, il espère restaurer la confiance. Il s'est expliqué mardi soir sur Radio Shalom. Démissionner sur une initiative personnelle relèverait d'une désertion et serait un acte d'orgueil, a-t-il dit, en ajoutant qu'il savait prendre ses responsabilités. En visite à Paris depuis le 8 avril, le chef de l'église maronite, le cardinal Béchard Arail, a été reçu mardi après-midi au palais de l'Élysée par François Hollande. Selon un communiqué de la présidence, la France demeure très attentive à la situation des chrétiens d'Orient, qui sont des éléments importants de l'identité des pays dans lesquels ils vivent. Le président Hollande a par ailleurs réaffirmé la nécessité d'une action continue de la France en vue de la sauvegarde de l'unité et de la stabilité du Liban, de manière à le maintenir à l'abri de la tragédie syrienne. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Merci de nous avoir suivis.